Attention à la marge, votre chronique féministe sur Divergence FM.
Il faut une sacrée dose de volonté à une femme noire pour atteindre le sommet de la montagne qu'elle vise.
Attention à la marge, où on parle de féminisme, d'antiracisme, d'anticapitalisme.
Nous allons effectivement améliorer les choses, mais nous n'avons pas besoin de votre secours.
Attention à la marge sur Divergence FM.
Bonjour à toi qui m'écoutes. Bienvenue dans Attention à la marge. Te voilà enfin. Cette semaine, j'ai décidé de te faire découvrir mon pays d'origine. Je t'ai attendu ici, sur l'île de São Tiago, dans l'archipel du Cabo Verde, à 650 km des rives du Sénégal. Le Cabo Verde, c'est le petit pays que Cesária Évora a fait connaître au reste du monde dans les années 90. L'archipel est divisé en deux parties. Au nord, ce sont les îles de Barlavento, qui veut dire « dans le vent ». Il y a Sal, l'île des marais salins, Boaviste, l'île des tortues de mer, Santa Luzia, la seule île déserte de l'archipel, São Vicente, la capitale culturelle et terre natale de Cesária Évora, São Nicolau, l'île des pirates, et Sant'Antão, l'île agricole. Au sud se trouvent les îles de Sotavento, sous le vent. Santiago, la plus grande île du Cabo Verde, est la plus peuplée. Fogo, l'île volcanique, et les deux petites îles de Mayo et Brava. L'archipel du Cabo Verde est longtemps demeuré un lieu mystérieux, et on pourrait le rapprocher de nombreuses légendes depuis l'Antiquité, dans les mythologies grecques et phéniciennes, et dans les légendes des navigateurs arabes. Quoi qu'il en soit, lorsque le premier navire portugais débarque sur l'île de Sal en 1456, les lieux sont inhabités. Le capitaine, Antonio Noli, est rapidement nommé gouverneur de cette nouvelle terre par le roi du Portugal. Il fonde la colonie de Ribeira Grande, qui deviendra la première ville européenne sous les tropiques. Dès lors, les Portugais s'attellent à y développer un funeste commerce, celui de la traite des esclaves. Ils les font venir du Sénégal, du Dahomey, de l'Angola ou encore du Mali. Le Cabo Verde est idéalement situé sur les routes maritimes pour en faire une plaque tournante du commerce triangulaire. Les esclaves africains y sont stationnés avant la grande traversée vers les Amériques. Ils arrivent par milliers sur l'archipel, apportant avec eux leur langue, leurs croyances, leurs coutumes et leur musique. Si la plupart embarquent à bord des négriers, certains restent sur place pour exploiter les marais salins et faire pousser la canne à sucre. Au fil des siècles, la rencontre brutale entre les colons portugais et les esclaves africains donne naissance à une nouvelle culture, une nouvelle langue et un nouveau peuple, qui font aujourd'hui l'identité créole du Cap-Vert. Au début du XIXe siècle, les mouvements anti-esclavagistes compliquent largement le commerce triangulaire. Les esclaves se révoltent et ils sont désormais soutenus par une partie de l'intelligentsia européenne. Au Portugal, l'esclavage est aboli en 1761. Alors, les Portugais se rabattent sur un colonialisme féroce. Le peuple et la terre du Cabo Verde sont exploités jusqu'à épuisement. Les colons déforestent les îles et importent l'agriculture intensive. Mais en coupant les arbres, ils détruisent les nappes phréatiques qui permettaient jusque-là à une végétation luxuriante de recouvrir ces terres volcaniques. S'ensuivent d'innombrables sécheresses et trois grandes famines qui font plus de 100 000 morts. Le Portugal n'a désormais que faire de cet archipel qui n'a presque plus d'utilité depuis la fin de l'esclavage et laisse les Cap-Verdiens sombrer dans la misère. Ça, je n'ai pas besoin d'un livre d'histoire pour le savoir. Quand j'étais petite, mon père me racontait souvent les histoires de son enfance, lui qui est né 10 ans avant l'indépendance. Un jour, il avait tellement faim qu'il se roulait par terre en pleurant à chaudes larmes. Un groupe de Portugais passant par là l'aperçoit. L'un d'entre eux, en le voyant, éclate de rire. Il sort un quignon de pain rassis de sa poche, crache dedans et le jette sur l'enfant affamé. Mon père m'a aussi raconté comment il séchait l'école avec sa cousine Mena pour s'introduire dans les jardins portugais et y voler la nourriture qui y poussait en abondance. Le gardien était un capverdien du village. Lorsqu'il les attrapait sur le fait, il les tabassait en pleurant. Il disait que s'il ne le faisait pas, les Portugais viendraient les tuer, eux et lui avec. À côté du village de Chambon, dont mon père est originaire, se dresse un pénitentiaire dans lequel étaient enfermés les prisonniers politiques durant la dictature de Salazar. Je ne suis pas sûre de quelles horreurs s'y sont passées. Tout ce que je sais, c'est que pendant des années, les habitants des environs ont refusé d'y pénétrer. Ils disaient que les violences qui y avaient eu lieu avaient laissé derrière elles de mauvais esprits. Aujourd'hui, le pénitentiaire est devenu un musée de la résistance. Preuve, s'il en faut, de la résilience du peuple caverdien. Je pense que ces histoires qui ont bercé mon enfance ont joué un rôle dans la sensibilité que j'ai aujourd'hui. Très tôt, j'ai connu l'horreur de la domination coloniale. D'ailleurs, lorsque j'ai appris au collège que la France s'était elle aussi rendue coupable de ce crime, mon regard sur mon pays a été bouleversé à jamais. Je pense que ce moment déterminant est peut-être la genèse de mon engagement politique. Aujourd'hui, la seule chose que je peux faire pour honorer la mémoire de mes ancêtres, c'est de te raconter leur histoire, à toi qui m'écoutes. Et je continuerai à le faire tant qu'il le faudra, pour ce petit pays que j'aime beaucoup. Alors, à la semaine prochaine !